Jour de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Bonjour, shalom.
Ne faites pas votre part, je crois qu'il y a problème.
Vous n'aurez pas une compétence solide.
D'avoir bien visé et vous voir grand et loin.
Et donc, ce qui peut contribuer à améliorer les conditions de tous les Togolais, il faut le faire.
On est appelé à partir un jour, on ne sait pas quand et comment. Il faut bien vivre et bien mourir.
Mais quand même, sache quand même.
Oui, oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide quoi.
C'est ça la sagesse. Quand on veut faire des pas et qu'on sent que ces pas-là ne sont pas rassurants, il faut un moment opter et changer de cap.
On l'a interviewé sur une
qui
radio.
On a interviewé qui?
Par rapport à ce dossier-là, franchement,
moi je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Gaffard, toutes nos excuses pour ce retard de 4 minutes que nous accusons à démarrer cette émission. Mais je vous sais patient à l'écoute. C'est pourquoi je vous salue en toute amitié, confraternité. Bonjour, shalom, assalam alaikum. Un peu partout d'où vous nous écoutez, de Dapan à Lomé, en passant par Niamtougou, Bassar, Sokodé, à Takbamé, en Europe. Nous saluons également ceux qui sont en communion de par le monde entier par divers médias numériques. Grâce aux techniciens qui réalisent l'émission, ils sont deux, Etek Kossi Datevi Thomas et Gérard Kodjo Akucha. Aujourd'hui, 31 octobre 2023, pendant que nous tournons la dernière page du 10e mois de l'année 2023, nous nous rappelons que c'est la journée mondiale de l'épargne. Et oui, nous épargnons, encore qu'il faut s'assurer de là où on dépose son argent. Aujourd'hui, mardi, nous allons parler culture et art, avec également une abondante page sportive. Et puis nous allons continuer avec les autres sujets de l'actualité sociopolitique tels que les journaux l'ont traité aujourd'hui. Premier invité, premier confrère déjà présent à nos côtés, Komla Ekpe, que nous connaissons beaucoup plus sous le pseudonyme Aimé Lebon. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour Sas, bonjour auditeurs et auditrices de Canal FM.
Tu es toujours aussi bon qu'avant?
Comme toujours, si ce n'est le meilleur.
En tout cas, je constate que tu gardes la voix qui fait ton charme, c'est le trésor que Dieu t'a donné. Mais...
Oui, c'est aussi ça.
Et un trésor s'entretient.
Ça s'entretient.
Notamment pas trop d'alcool et pas de tabac. En tout cas, je ne te connais pas l'un de ces...
Vous en savez beaucoup.
N'est-ce pas? Merci beaucoup Aimé. Les autres collègues, confrères invités ont quelques soucis dans la circulation, mais ils vont nous rejoindre incessamment. Aimé, l'actualité au Togo et chez nous est assez fournie pour divers sports. Nous en avons sélectionné quelques-uns, mais quand on part, rend hommage à ceux qui sont sur du rugby mondial. Il s'agit des Springboks, l'équipe nationale de rugby d'Afrique du Sud, qui vient de remporter avec beaucoup de suspense, beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, la 10e Coupe du Monde de rugby 2023 qui s'est jouée en France. Et comme l'écrit aujourd'hui le journal Le Bâtisseur, c'est le 4e sacre pour l'Afrique du Sud. Sont vraiment au firmament du rugby, Aimé.
Oui, les Springboks, comme on les appelle, en tout cas, disons que ils sont aujourd'hui sur le toit du monde et que c'est eux les meilleurs actuellement puisque c'est eux qui ont plus de coupes, c'est-à-dire un quatrième trophée à leur actif, face donc à Nouvelle-Zélande, qu'on appelle donc les All Blacks, justement, eux, et qui sont arrêtés à 3. Voilà, donc c'est l'Afrique du Sud qui s'est succédé à elle-même, justement, que c'est elle qui avait gagné le trophée il y a de cela quelques années, et bon, voilà, l'Afrique du Sud a remis ça, justement, et depuis le quart de finale, vous voyez, cette équipe est en train de gagner juste avec un point d'écart. La France d'abord, avec un point d'écart, a éliminé donc l'équipe française qui abritait justement cette Coupe Monde. Après, en demi-finale, c'est encore un point d'écart. Et en finale, encore un point d'écart. Juste ce qu'il faut pour ne pas mourir, et je crois qu'ils ont réussi à conserver le titre. C'est l'essentiel justement pour cette Afrique du Sud. Voilà, ça vient du continent africain et puis, félicitations.
C'est pourquoi je parlais tantôt de l'engagement, de la volonté, de la détermination des Springboks. Et ils ont prouvé qu'en sport, on peut ne pas toujours être meilleur que son adversaire, mais si le cœur y est avec la volonté, on peut triompher. L'autre particularité de cette équipe d'Afrique du Sud, c'est la 8e fois que les Springboks participent à la Coupe du Monde de rugby. Et en 8 participations, ils ont joué 4 finales qu'ils ont toutes remportées.
Oui, mais vous savez que depuis longtemps, l'Afrique du Sud ne participait qu'à, disons, au rugby. Voyez-vous, il n'y avait pas, on s'intéressait pas trop donc au football. Si ce n'est, rappelez-vous en 96 que l'Afrique du Sud avait organisé la CAN. C'était une première justement et qu'ils ont gagné d'ailleurs. Alors donc, mais bien avant, la spécialité de l'Afrique du Sud, c'est bien le rugby surtout pratiqué à l'époque par rien que les blancs. Et c'est avec Nelson Mandela donc qui est arrivé au pouvoir, on a essayé donc de gérer un tout petit peu cette situation et les noirs ont commencé à s'intéresser donc à la chose. Donc pour vous dire que en fait ça nous permet d'entrer un peu dans l'histoire pour voir à peu près ce qu'a été l'Afrique du Sud et donc c'est une histoire de rugby donc pour cette sélection des Springboks Box et qui ce pays qui n'a connu récemment que le football en fait.
Merci. L'Afrique du Sud qui se veut vraiment un pays arc-en-ciel avec l'intégration de toutes les races, chacune avec ses mérites et ses compétences. La preuve, le capitaine de l'équipe Springbok d'Afrique du Sud, c'est un noir.
Oui.
Et ça fait 2 fois qu'il a brandi le trophée mondial après 2019 et 2023. Dans 4 ans, rendez-vous, je crois, ce sera en Nouvelle-Zélande
et
oui, Australie pour la 11e Coupe d'Afrique du Coupe du Monde de rugby. Et nous verrons si l'Springboks vont encore continuer à dominer ou bien s'ils vont devoir céder la couronne à un autre pays.
En tout cas, depuis 4 ans, ils sont demeurés donc sur le toit du monde de rugby. Et ils estiment qu'ils espèrent justement continuer. C'est une question de travail et déjà de tactique, de stratégie. Ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir gagner juste ce qu'il faut. Je crois que c'est très bien.
Merci. Alors, d'un sacre à un autre, continuons avec ce que ton journal, l'équipe sportive, écrit aujourd'hui. C'est, je crois, la page 7. Quand tu reviens, ton journal revient sur le nouveau Ballon d'Or 2023, disons que c'est un ancien nouveau ou bien un nouvel ancien.
Oui, ça fait la 8e fois que Lionel Messi remporte donc ce trophée. En tout cas, on savait depuis décembre dernier que il était celui qui allait remporter donc ce trophée, sauf cataclysme, voyez-vous. Et donc, bon voilà, surtout avec ses performances, ses dernières performances en sélection surtout, en sélection argentine, l'Albi Céleste qui a gagné donc la Copa América et qui a gagné également la Coupe du Monde en finale contre la France. Donc voilà, je crois que ce sont ces distinctions et qui ont fait la différence et qui ont permis encore une fois à Léo Messi de remporter haut les mains justement cette compétition. En tout cas ça va être la dernière puisque voilà, il est en train de prendre sa retraite aujourd'hui. Il n'est plus en Europe et il joue maintenant au MLS à Miami. Bon voilà, donc ça veut dire quand même que c'est sa dernière coupe ou c'est son dernier ballon d'or qu'il a pu avoir, mais c'est le 8e et c'est lui qui est au top donc après lui vient donc Cristiano Ronaldo
avec 5 sacres.
Oui, alors donc vous imaginez que bon, ok, l'homme a suivi une trajectoire pas possible.
Merci. Pendant une 20aine d'années, ce duo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé un haut les pour hein, les épaules, le football mondial. En tout cas,
on verra bien ce que ça va être puisque le duo là est parti.
Oui. Enfin, ils sont en train de partir, ils sont encore là.
Oui, mais bon, enfin, on peut plus attendre grand chose de ce duo. Maintenant, ce qui émerge, c'est les Haaland, c'est les Mbappé, c'est les Bellingham, c'est bon. Ok, je crois que dans les années qui viennent, on verra bien si le jeune Mbappé va finir par damer le pion à Haaland, qui continue donc à écraser de sa performance. A marqué également des buts au niveau de Manchester City.
Et comme on le dit en effet, Deville et Diagom, hein, pendant que Messi et Ronaldo sont en train de partir, il y a des jeunes pousses comme voilà, les Kylian Mbappé, les Erling Haaland, les Jude Bellingham, les Moussiala.
Oui.
Bon, en Afrique, on ne voit pas beaucoup de jeunes pousses si prometteuses. Et pour terminer, quand même, l'Afrique n'a pas été totalement absente hier.
Oui.
Il y a quand même le Nigérian qui joue à Naples, qui a Victor Osimhen, qui a été classé 8e. Ballon d'or dans le classement, Ballon d'or 2023. Je l'annonçais, il nous a rejoint. Eric, Hugues, Parpoudjo, Johnson, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour Aimé, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Merci. Nous continuons toujours avec le sport, avec justement ce que Togo Presse écrit aujourd'hui. Deuxième journée de la première division, l'Onato, nous sommes au Togo. Gomido qui enchaîne, pendant que l'ASCO et l'ASCA toujours dans le dur. Et l'Union également en parle à la page 5. Deuxième journée des Lonato. Asco qui vient de tomber devant Doumbé 0-2. Gomido qui enchaîne 2-2 face à l'AS OTR. Tous les scores sont dans l'article de l'Union. Alors au classement très partiel, ce n'est que deux journées jouées. Gomido qui fait 6-6 et Gomido et Kakadl de Doufelgo qui font 6-6 pendant que déjà en lanterne rouge, Bikinti de Bassar et Dicto qui n'ont encore récolté aucun point. L'équipe sportive également parue aujourd'hui revient sur la deuxième journée. Début en flèche de Gomido, Asco à la traîne, Aimé.
Oui, bon, c'est la surprise de début, justement, de voir l'ASCO de Kaka qui n'arrive pas, donc, pour le moment. Nous sommes qu'au début, ça fait seulement deux journées. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est depuis 4 années, c'est la première fois que ASCO démarre aussi timidement, donc une saison. Et c'est ça qui constitue une surprise justement pour les observateurs, quand on sait que c'est l'équipe championne en titre et que l'ASCO a été éliminé donc de la Ligue des Champions très récemment, justement au premier tour d'ailleurs. Voilà, on se dit qu'est-ce qui n'a pas pu marcher justement pour que l'ASCO puisse avoir en deux matchs un seul point. C'est la grande interrogation qu'on se posait et ça pourrait se comprendre. ASCO est attendu aujourd'hui sur tous les terrains. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Parce que depuis 4 années, c'est elle qui caracolait donc en tête. Donc, elle est attendue par tous les autres clubs aujourd'hui. C'est clair. Deuxième chose, c'est que ASCO a perdu beaucoup d'éléments. Beaucoup de joueurs sont partis monnayer leur talent à l'étranger. Et on a bien sûr recruté d'autres joueurs qui ont de la peine donc pour le moment à s'acclimater ou à se retrouver donc dans ce championnat, dans cette équipe. Il y a aussi le départ de l'entraîneur, son remplacement par un Ivoirien, il s'appelle Amani Yao, donc que vous connaissez très bien.
Amani Yao, Lambert César.
Oui,
c'est ça. Il jouait à la SEC d'Abidjan.
Voilà.
Pendant que tu te rappelles les duels épiques entre la SEC d'Abidjan et la Gaza de Lomé.
La Gaza de Lomé ou naturellement c'est Massi. Alors donc pour dire que oui, le départ de Abalo Dossin, donc la tête du staff, a fait craindre donc une paille de flottement. Je crois que c'est ce qu'on est en train d'observer également à Amani Yao, qui en fait, est arrivé à la fin de la saison, parce que c'est juste à la fin de la saison que on l'a appelé, qu'il a été recruté. On croyait que l'intersaison allait lui permettre de s'acclimater et de, j'allais dire, se familiariser avec la philosophie du jeu de Asco, mais ce n'est pas encore le cas. Et Gomido, qui a recruté, qui a repêché, si vous voulez, à Balodossé, voilà, Gomido est aujourd'hui en tête avec 6 points en 2 matchs, pour 3 points pour chaque match. Alors donc, vous comprenez que, oui, Balodossé est allé à Gomido, et en train de reconstruire cette équipe, et qui dit, oui, nous sommes en train de progresser, on va voir ce que ça va donner. Ben voilà, pour ce qui concerne Kaka de Doudou Fergou, je crois que c'est un club assez difficile aussi à jouer. Vous vous rappelez quand Kaka est arrivé en première division dans le temps, ça doit être en 2002-2003, vous vous rappelez, c'était au temps d'un certain, son président, et qui était donc à la présidence à l'époque.
De qui?
Oui, de Kaka de Défalé. Mais c'est un club qui avait tous ses joueurs à Lomé, et au week-end on va jouer donc comment dire, Niamtougou. Leur terrain s'appelait à l'époque, nous l'avions surnommé leur terrain à l'époque, le stade de Mont Blanc. Mm-hmm. Alors donc, qui avait fait peur à tous les clubs à l'époque, c'est, il s'appelait l'Antoko. Voilà, le président du club, mais qui finalement a décédé. Le club a traversé un moment très très difficile avant que finalement quelqu'un d'autre ne le prenne. Alors donc, pour dire que oui, nous ne sommes qu'à 2 journées, la suite sera encore longue, et peut-être qu'Asco va finir par se reprendre très rapidement.
C'est un petit marathon de 22 journées. Pour le moment, c'est Gomido de Kualimé, Kakadl de Doufergou qui sont en tête. Mais attention, il ne faut pas enterrer trop tôt Asco de Kara et ASK. Non. Et surtout à la fin de la saison, on verra. Parce qu'au-delà de Asco, c'est la ville de Kara, avec ces deux clubs phares qui dominent le football togolais depuis ces dernières années. Nous verrons.
Quatre années, à chaque fois, c'est, quand on commence la saison, on sait à peu près qui sera champion et qui sera vice-champion. Mm-hmm. Donc, c'est les deux. Et donc, c'est pour ça que on est un peu surpris, justement, de ce début timide. Mais j'espère que très rapidement, ils vont se reprendre et puis on va avoir. Donc,
et surtout, nous espérons que cette cuvée 2023-2024 va nous révéler de jeunes talents pour étoffer les sélections, les éperviers juniors aux seniors. Mais cela pose également le problème des moyens, et notamment de l'envergure de notre championnat. Entre-temps, l'ambitieux projet de professionnalisation des sports, dont le football, ce projet a été lancé. Ton journal revient là-dessus quand tu écris, enfin, quand l'équipe sportive écrit aujourd'hui, professionnalisation des sports, le bon chemin, sauf que ce bon chemin reste pour le moment virtuel, uniquement dans les textes.
Oui, vous savez, il faut d'abord que les textes soient pris, n'est-ce pas? Créer un cadre légal, pour bien parler justement, il faut créer donc le cadre légal qui permette à ce que le football se joue comme cela se doit, surtout quand on veut parler de la professionnalisation. Oui, c'est vrai qu'on l'avait annoncé un peu trop tôt que le professionnalisme devait être entamé cette saison, mais déjà, dans nos analyses précédentes, nous leur avons dit que c'était impossible. On ne pourrait pas, dans l'état actuel, se lancer dans un professionnalisme. Ce serait suicidaire pour le football togolais, ce serait suicidaire pour la fédération, ce serait suicidaire pour les joueurs.
Et les clubs aussi.
Et les clubs, naturellement. Oui, quand on parle des joueurs, c'est naturellement les clubs. Oui. Et que l'argent, ce n'est pas seulement l'argent qui va faire. Parce que au départ, quand on a dit que les clubs de première division auraient 70 millions chacun, et que les clubs de deuxième division devraient avoir 60 millions, tout le monde s'empressait justement de dire « Oui, mais on va aller. » Mais il n'y avait pas de préalable. Et c'est ce que nous avions à l'époque souligné, qu'il faut d'abord revenir au préalable. Et justement, le dernier conseil des ministres du 20 octobre dernier, justement, c'est ce conseil des ministres qui a refait pratiquement le texte, qui a relancé, qui a pris donc un décret pour relancer pratiquement la chose et permettre à ce qu'on revienne à un cadre légal pour tous les sports. Et ça ne va plus être seulement au football, mais ce serait donc pour toutes les disciplines sportives où, justement, on va créer une ligue professionnelle. Et c'est les ligues professionnelles qui vont gérer, justement, les compétitions professionnelles ou les championnats professionnels. Ça veut dire que la fédération elle-même n'auront que des rôles, disons, de gestion des sélections nationales et du sport amateur. En réalité, c'est ça. Quand vous prenez le football, par exemple, la FTF, ça veut dire que on va créer une ligue professionnelle qui va maintenant gérer le football professionnel, le championnat professionnel de D1 et de D2, et la fédération va s'occuper maintenant des sélections nationales et du football amateur. Le football amateur, c'est quoi? C'est troisième division, etc., les football de ligue, les régionales et autres. Et là, c'est comme ça que ça se fait ailleurs. La ligue professionnelle va s'occuper donc de ce qui est professionnel. Je crois que ce cadre légal qu'on vient de lancer va permettre à ce que nous créions, nous ayons de maintenant des sociétés sportives, c'est-à-dire que chaque club va devenir une société sportive. Ça veut dire également que tous les joueurs deviendront, si vous voulez, des salariés à part entière et doivent être inscrits également à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mm-hmm. Alors, pour faire tout cela, il faut quand même qu'il y ait des infrastructures adéquates, c'est-à-dire le terrain. Parce qu'on ne peut pas pratiquer du football professionnel sans, enfin, sur ces terrains, comment dire, périphériques, ce que nous sommes en train d'utiliser. C'est-à-dire ce pourquoi nous sommes en manque de terrain. C'est-à-dire ce pourquoi le championnat de D1 aujourd'hui se joue sur combien de terrains? Comme vous voyez, il y a Anéron, il y a Lomé, il y a Palimé, il y a Atakpamé, il y a Sokoré et Kara. Voilà, c'est donc, les clubs n'ont pas, ils n'ont pas les infrastructures qu'il faut pour s'exprimer. Et donc, ça veut dire que l'État a besoin également de faire en sorte que tous les clubs et toutes les grandes villes, toutes les localités, là, puissent avoir des infrastructures adéquates pour pratiquer donc le football. Donc, ces nouvelles orientations nous permettront d'avoir tout cela.
Merci pour ce bel article hein, qu'on lira à la page 3 du journal L'Équipe, hein, le bon chemin dans la professionnalisation des sports. C'est la contribution éveillée et critique de la presse pour tout ce qui se fait de bien dans notre pays ou bien tout ce qui veut se faire bien. Et Eric, tu voulais dire?
Non, je voudrais dire que ça, c'est la meilleure orientation pour professionnaliser le sport dans ce pays. Vous savez, au football, par exemple, il était question que des clubs se retrouvent, se regroupent pour avoir des équipes professionnelles. Là, déjà, ça crée des problèmes. Il y a des clubs qui vont totalement disparaître.
Ce qui est d'ailleurs impossible.
Impossible.
Voilà. On demandait, par exemple, à ASCO et à ASK de fusionner. Vous voyez, alors que depuis 4 années, c'est les 2 clubs-là qui arrivent à drainer. Non seulement du monde, mais adresser même le championnat.
Ouais, c'est ça.
Voyez-vous, c'est parce qu'on nous disait que chaque préfecture devrait avoir un club en D1 ou en D2. Et donc, comme à Kara, il y a par exemple 2 clubs en D1 que les 2 devraient fusionner. À Sokoré, il y avait 2 clubs également, Tchao Diou Athletic, Unisport et Semassi. Les 2 devraient également fusionner. Voyez-vous, c'est un peu difficile. C'est vrai que Madame le ministre des Sports était enthousiaste et voulait faire les choses très vite. Mais on a oublié que en voulant faire ainsi, en voulant régler ce problème d'une manière géopolitique, on crée d'autres problèmes sociaux.
Et d'autant plus que nous, même si nous sommes en sport, les clubs ont leur histoire,
leur identité,
leur charge. La preuve, à Gaza, a beau se perdre dans les méandres de je ne sais quoi, mais quand vous dites à Gaza, il y a les supporters d'à Gaza, même s'ils dormaient, ils se réveillent. Et ne parlez pas d'étoiles filantes, ne parlez pas de la modèle et d'autres clubs. Donc, vouloir toucher à ces clubs-là...
La modèle qui veut encore revenir.
Qui veut revenir. Donc, vouloir toucher ces clubs-là et pour les regrouper mécaniquement... cela risque de créer beaucoup plus de problèmes que de solutions qu'on nous voudrait apporter.
Clair, il faut une nouvelle organisation de tout cela.
Merci beaucoup. Il est 11h28. Ça vaut vraiment la peine que nous parlions abondamment de sport. Encore que c'est pas fini, mais on va mettre là-bas trop de suspension, passer à d'autres sujets. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez nous y ramener après la pause de 12 heures en composant les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Et nous continuons avec la page art et culture, si Eric le veut bien.
Ah, je le veux très bien.
Très bien, d'autant plus que dans ton journal, l'Union, la page 2, il y a deux articles là. Le premier qui porte sur l'article, sur plutôt la musique, et cet article qui revient sur la tournée que le groupe musical Les Nana Benz du Togo vient d'effectuer au plan national.
Est-ce que tu connais ce groupe?
J'avoue, je les connais de nom pour le moment.
Oui, ça c'est pour la première fois, j'ai écouté une mélodie de ce groupe-là, c'est sur une chaîne internationale. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème dans la promotion artistique dans notre pays. Ce groupe, j'avoue que quand j'ai écouté leur mélodie, j'ai pris du temps pour l'écouter jusqu'à la fin. Et je me dis, mais ce groupe-là est basé où? Pour moi, c'est un groupe qui est basé en Europe quelque part et qui n'est pas du tout connu au pays. Et à ma grande surprise, on a annoncé quand même une tournée de ce groupe-là dans les CLAC, les centres de lecture et
d'animation culturelle.
Dans trois villes du Togo, Notien, Tchamba et Sokodé. Et là, j'ai été très curieux d'aller regarder quand même ce spectacle-là, mais malheureusement, j'ai pas pu. Alors, ce groupe-là apporte déjà quelque chose de très important, c'est le patronyme Nana Benz. Et le groupe s'appelle Nana Benz du Togo. Alors, quand vous entendez Nana Benz tout de suite, ça vous rappelle quand même les années 40 jusqu'aux années 90 où ces dames-là ont fait quand même tout ce que nous pourrons appeler le capitalisme de notre pays. C'est ces dames-là qui portaient l'économie nationale avec la vente de pagnes.
Oui,
et c'est elles qui soutenaient même le pays dans l'organisation des conférences, des forats, etc. Parce que et c'est elle qui avait le véhicule qui permettait de faire circuler ces gens-là dans notre pays, d'aller les accueillir d'abord à l'aéroport, de les amener dans leur hôtel et après de faire des courses
avec eux. Et l'un des plus beaux hommages à ces dames rendues, c'est de la bouche de feu Gnassingbé Adema, qui ne cachait pas sa fierté de dire que quand le Togo devait accueillir un sommet de l'OCAM, l'organisation commune africaine et malgache, le Togo était, n'avait pas les véhicules qu'il fallait. Oui. Ce sont ces Nana Benz-là qui avaient prêté leur Mercedes-Benz au gouvernement pour accueillir nos chefs d'État. Mais ça fait mal aujourd'hui. Nombre de ces Nana Benz ou leurs héritières se retrouvent aujourd'hui dans le commerce du détail.
Oui, comme je le disais la semaine dernière, aujourd'hui, c'est plutôt les Chinois qui ont le vent en poupe dans la vente de pagne. Aujourd'hui, les pagnes que nos Nana Benz vendaient, ces pagnes-là qui avaient une certaine valeur, sont aujourd'hui bas dans les prix, dans la qualité même. Vous voyez-vous, ça là, à peine ça vaut 1200 francs le yao, comment vous appelez ça. Mm-hmm. Mais attends, aujourd'hui, ce commerce-là n'a plus cette valeur-là qu'il avait dans le temps de ces Nana Benz-là qui soutenaient en réalité l'économie nationale. Ça, je disais donc que ce groupe-là porte ce patronyme-là. Ça veut dire que c'est un groupe qui doit être forcément ancré dans nos cultures. Mm-hmm. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un groupe qui est composé de trois femmes et des percussionnistes et deux hommes qui les accompagnent dans les instruments, etc. Mais dis-toi ceci, elles utilisent, je veux parler de ces femmes, tout ce qu'elles trouvent comme instruments, je veux dire même les ustensiles de cuisine, leur permettent de jouer à de la musique, parce qu'elles ont une voix, parce qu'elles savent mettre un son sous les paroles, et je crois que c'est une très bonne chose.
Les Nana Benz qui, avant leur tournée nationale, ont d'abord fait une tournée en Europe.
Et justement,
le groupe s'est déplacé en France, aux Pays-Bas et en Belgique.
C'est par rapport à cette tournée-là qu'on a eu à passer leur musique sur les chaînes internationales, et c'est comme ça, personnellement, je les ai connus.
Et dans leur tournée nationale, ce groupe est accompagné par l'OIF, par son projet Claque en scène. Il s'agit en fait d'un projet qui vise à promouvoir la circulation et la visibilité des artistes dans les réseaux des centres de lecture et d'animation culturelle. Autrement dit, transporter l'art et les artistes dans les centres de lecture et d'animation culturelle, là où le public est majoritairement jeune. C'est ce pari que l'OIF veut
réaliser. Et donc, et ça, c'est de la musique traditionnelle. Et eux-mêmes, ils disent que c'est le vaudou digital. Le vaudou digital. Ça veut dire qu'ils vont puiser dans nos cultures ancestrales pour ressortir quelque chose qui a une autre valeur, comme le jazz, le hip-hop, tout ce que vous voulez. Mais quand vous écoutez cette musique-là, ça, vraiment, j'avoue...
Merci, des Nana Benz. Passons maintenant à ce sujet qui a meublé le Conseil des ministres le 26 octobre dernier, quand le gouvernement réuni en Conseil des ministres a adopté un avant-projet. Ils ont adopté un projet de loi en Conseil des ministres qui porte sur la propriété intellectuelle. En fait, c'est une loi qui existe au Togo depuis 1991, mais 32 ans après, le gouvernement a trouvé important et opportun de toiletter positivement la dite loi. Eric,
pour toiletter positivement,
oui.
Ok, ça, tu sais, aujourd'hui, on parle des droits d'auteur et des droits voisins. En 1991, on avait, c'est-à-dire une autre situation, et on parlait beaucoup plus de folklore, c'est-à-dire que tout ce qui est animation artistique, tout ce qui est la création d'œuvres d'art.
Oui.
Et donc, je crois que à partir de ce moment, il fallait quand même trouver quelque chose à ceux qui créent. Avant 1991, il n'y avait pas de cadre. Et donc, je crois que c'est à partir de ce moment que l'on a créé le Butodra, qui devait...
Le Bureau togolais des droits d'auteur.
Qui devait permettre aux artistes, et quand on parle d'artistes, il ne faudrait pas s'arrêter seulement aux musiciens. C'est
tous les artistes,
même les littéraires.
Toutes les catégories d'artistes.
Tous les genres artistiques.
Oui, c'est ça.
Et donc, aujourd'hui, je crois que il y a aussi ceux qui accompagnent ces artistes-là. Et on parle de droits voisins. Ça concerne, par exemple, je veux produire un film. Et donc, je ne peux pas faire tout seul un film. Donc, j'ai besoin des gens pour m'accompagner. Ceux-là aussi ont leurs droits. Et une fois que ce film-là est projeté, tout ce que cela rapporte, logiquement, je dois aussi avoir, parce que j'ai le droit d'auteur, mais vous aussi, vous avez de droits, et c'est ça qu'on appelle globalement les droits voisins. Et donc, ça veut dire que toute œuvre artistique doit permettre à tous ceux qui ont participé à sa mise en place d'une manière ou d'une autre.
Merci. Ce projet de loi qui ne manque pas d'ambition, parce que le texte, comme tu l'écris si bien dans ton article, le projet de loi intègre les nouveaux droits reconnus aux créateurs d'œuvres et aux artistes par les instruments internationaux et communautaires, tels que le rallongement de la durée de protection des œuvres de l'esprit, qui passe de 50 à 70 ans. Également, la rémunération pour copie privée de la et la perception des droits de reproduction par réprographie. Ceci pour permettre de rémunérer les auteurs écrivains et les éditeurs des œuvres littéraires.
Ça veut dire tout simplement que si j'ai participé à une œuvre artistique, c'est que c'est devenu notre propriété à nous, qui sommes derrière cette production-là. Et donc, si quelqu'un veut reprendre plus tard cette œuvre-là et la reproduire, c'est que la personne doit nous payer des droits. Et donc, avant, on disait que ces droits-là pouvaient permettre quand même de payer aussi la succession. Et c'est pour ça qu'on avait mis 50 ans. Aujourd'hui, ça se rallonge à 70 ans. Ça veut dire que derrière moi, mes enfants pourront quand même toujours bénéficier de ces droits-là pour pouvoir subvenir à leurs besoins.
Merci. En fait, moi j'allais dire simplement que, revenir sur cette loi, ce n'est qu'une amélioration du cadre légal qui devrait donc gérer cet aspect. De droits d'auteur, comme vous l'avez dit, depuis 91, c'est vrai que ça existait, c'est une loi qui existait, mais c'était limité à un moment donné, parce que à l'époque, c'était la vision, c'était limité. Donc, au fur et à mesure que les choses évoluent, vous savez qu'il y a également un cadre légal international qui existe, et il fallait s'insérer justement à cela. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement togolais a jugé bon donc d'améliorer ce cadre-là pour permettre justement aux artistes de mieux s'exprimer et de mieux se valoriser par rapport à ce qu'ils sont
et en train de faire. De vivre de leur art, justement.
C'est important que les artistes, ceux qui travaillent l'esprit, puissent vivre de leur art. Or, quand nous écoutons les chaînes internationales, quand nous sortons beaucoup, le constat fait que le Togo n'arrive pas à dégager des artistes, que ce soit de la musique, de la peinture, même du livre, la littérature au plan mondial. Vivement, vivement, vivement que King Messan ait un successeur. Attention, il ne veut pas qu'il meure, mais que de nouvelles pousses émergent pour le dépasser. Et ça va créer l'émulation, même parmi nous, la presse et d'autres. Il faut que des talents émergent et qui parlent d'artistes. Encore que Aimé, il n'est pas toujours très facile de faire la distance, enfin la différence entre un artiste et un artisan. Par exemple, pour un sculpteur, pour un peintre, c'est la transition pour dire que le marché international de l'artisanat togolais est ouvert depuis la semaine dernière. Le lancement solennel a été faite par la première ministre Victoire Sidemeho Tomenga Dogbe en personne. Ce marché reste ouvert jusqu'au dimanche 5 novembre prochain. Je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous y avez déjà fait un tour.
On n'a pas encore fait un tour, mais on entend quand même parler. Vous savez, bon, c'est vrai que moi, j'étais ailleurs, j'étais hors du pays pour quelques jours.
C'est ça que tu viens de rentrer avec tous les cadeaux que tu nous as ramenés.
Mais c'est intéressant, vous savez, ce genre de situation permet aussi justement de recadrer un peu le secteur, voyez-vous, permettre justement à ces artisans d'exposer leurs œuvres, et puisque nous parlons d'art, ben, de l'artiste à l'artisan, il n'y a qu'un seul pas, l'artisan est un artiste également, voyez-vous, et qu'on fasse en sorte que tous puissent vivre de leur activité. En réalité, c'est ça. Et donc, quand on aura multiplié ce genre de choses, alors ça permet quand même à ce qu'on les reconnaisse et qu'on reconnaisse également leur talent et qu'ils puissent vivre également de leurs produits qu'ils sont en train de
faire. Eh bien, le club La Presse va visiter le Miato. Ce sera le jeudi prochain. Le club La Presse avec tous ses techniciens, tout son studio. Nous allons nous délocaliser sur le site qui accueille le Miato. Si vous êtes curieux, rendez-vous sur le site du Miato.
Nous irons ensemble.
Et ce sera la façon pour le club de la presse d'accompagner le Miato.
Oui, Eric? il ne faut pas perdre de vue aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Vous savez, lorsqu'il y a une création, les droits suivent en même temps. Mais lorsque il y a un dépôt de brevet sur une œuvre, là, ça devient une propriété privée, une propriété intellectuelle pour l'artiste. Et donc, à partir de ce moment, vous savez, nous prenons ici, c'est peut-être parce que nous ne respectons pas trop les droits des artistes que nous pouvons plagier et sans qu'on ne soit poursuivi, etc. Alors que lorsqu'il y a un dépôt, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle sur une œuvre artistique, à partir de ce moment, les droits sont encore plus coriaces. Et là, on peut vous poursuivre à tout moment parce que vous avez touché à une œuvre.
Non, mais Eric, il ne faut pas aller de loin. Même nous-mêmes qui utilisons donc des photos sur
Internet,
tout cela, mais les photos là appartiennent à des structures ou bien à des personnes bien précises. Ouais. Alors si vous n'avez pas l'autorisation avant d'utiliser ces images, naturellement vous êtes poursuivi.
Oui.
Et c'est la loi internationale,
qui en
détermine ainsi.
Voilà. Naturellement. Alors donc, et puisque la photographie également est de l'art, en fait.
Bien sûr.
Et alors, l'exposition que nous faisons sur la toile, cette exposition est personnelle et privée.
Mmh.
Et donc, si quelqu'un a besoin d'une image, eh bien, la personne doit s'adresser au propriétaire pour avoir l'autorisation. Et c'est en cela d'ailleurs que le photographe peut vendre également ses œuvres sur, la toile.
La toile, oui.
Donc merci.
C'est très important de le rappeler.
Dans le même ordre d'idée, rappelez que le Club de la Presse est une propriété privée de Canal FM et de ses partenaires.
Naturellement.
Merci beaucoup. Alors, la preuve que nous sommes suivis un peu partout, quand je parlais tantôt du toilettage positif de cette loi sur la propriété intellectuelle, un auditeur participe avec nous et dit que tout toilettage est toujours positif.
Ça dépend de...
Tout dépend de comment le toilettage est ressenti. Mais non, nous disons dans ce studio.
En réalité, tout dépend de l'angle où l'on se trouve.
Merci.
Et donc de l'interprétation que vous en faites.
Merci. Nous allons continuer. Il nous reste encore 14 minutes avant la pause. Nous allons parcourir quelques articles divers, dont le partenariat ou la coopération entre la Banque mondiale et le Togo, la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement. Eric, l'Union nous en parle aujourd'hui, à savoir cette revue intervenue la semaine dernière, quand les deux partenaires, le Togo et la Banque mondiale, ont parcouru un peu le portefeuille du Togo auprès de la Banque mondiale. Un montant, pas des moindres, 719 milliards 46 en CFA, c'est le montant du portefeuille de la Banque mondiale au Togo qui touche divers domaines. Eh bien, à quel besoin répondait cette revue que les deux partenaires ont faite?
Ah oui, lorsque vous êtes ensemble, vous faites des projets que vous financez, il faut faire un break pour voir si effectivement les projets que vous mettez en œuvre aide véritablement ceux à qui ces projets-là sont destinés, c'est-à-dire en premier lieu les populations, et secondo voir comment ces projets-là sont mis en œuvre. Est-ce qu'on respecte les règles de l'art? Est-ce que les financements viennent comme cela se doit? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a d'autres défis à relever par rapport à tout ce que vous faites ensemble? Donc, cette revue de portefeuille de la Banque mondiale au Togo est justement dans cet ordre d'esprit pour voir s'il y a des choses à améliorer ou s'il faut continuer dans la même lancée. Et je veux dire aujourd'hui que la Banque mondiale elle-même, elle est très contente par rapport à son portefeuille au Togo. Pourquoi? Parce que le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, monsieur Fili Sissoko, a dit, je le cite, « J'avoue que de mes 20 ans de carrière à la banque, je n'ai pas encore vu ce taux de décaissement dans les nombreux pays dans lesquels j'ai travaillé. Lorsque nous avons approuvé le cadre de partenariat en 2017, l'enveloppe qui était prévue pour le Togo était de 174 millions de dollars. Il est passé à 900 millions de dollars en 2021 et aujourd'hui, on en est à plus d'un milliard de dollars et on espère faire beaucoup plus dans le cadre du partenariat pays. » Et ça veut dire beaucoup de choses. Nous disons souvent ici qu'il y a des projets qui sont là avec des financements, mais que dans certains ministères, on n'arrive même pas à proposer des projets pour que ces fonds-là
puissent consommer les crédits conséquemment.
Les crédits. Et donc, je crois que de façon générale, la Banque mondiale se réjouit de ce que fait le Togo aujourd'hui en proposant toujours des projets et dont les décaissements suivent. Maintenant, il faut voir si ces projets-là mis en œuvre ont des impacts directs sur les populations. C'est là où il faut vraiment se poser des questions et voir quelle nouvelle orientation donner à ces projets-là que la Banque mondiale finance dans notre pays.
Je voudrais rebondir par rapport à Eric sur cet aspect et dire simplement que, en fait, tout est parti de l'assainissement du climat des affaires.
Oui.
Parce que, vous savez, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, eh bien, ils n'apportent leur appui que par rapport aux réformes qu'ils ont demandées. Et les réformes-là ont été faites, en suivant un schéma, des étapes. Vous vous rappelez que Mme Sandra Johnson, qui gérait donc la cellule climat des affaires, avant d'arriver au secrétariat général de la présidence, elle est toujours là-bas.
Et en plus, elle est également le gouverneur du Togo pour la Banque mondiale et le FMI.
Toutes les étapes, c'est elle qui expliquait, qui permettait donc l'évolution ou d'étape à étape. Moi, je voudrais dire simplement insister sur le fait que le climat des affaires était un peu assaini, les réformes ont été faites et ça fait que ça permet justement à la Banque mondiale de voir plus clair dans les projets que le Togo propose pour pouvoir les financer. Et ce que dit Eric à la fin est vraiment intéressant, c'est-à-dire quel est l'impact de ces appuis, quel est l'impact sur la vie des populations. Je crois que c'est là où il faut voir maintenant, identifier la chose et prouver que oui, voilà, avec justement ces financements, on a pu gérer tel aspect, et que dans le panier de la ménagère, justement, on a pu sentir également une certaine amélioration. Je crois que c'est...
Alors, pour le décaissement, je me rappelle, lors de la revue, Madame la ministre secrétaire générale Sandra Blamba Johnson, qui plaidait que la Banque mondiale favorise davantage ou bien améliore davantage la procédure de décaissement des crédits.
Oui, tu te rappelles, on a fait le point sur certains décaissements de la Banque mondiale par rapport au projet COSO. Tu te rappelles, on en avait parlé ici. Et les populations avaient justement souligné la lenteur de ces décaissements qui faisait que des projets sont restés sans aller jusqu'au bout. Et donc, l'appel de Mme Sandra Johnson, justement, c'est pour que ces procédures-là soient vraiment allégées et permettent, dès qu'on lance un projet et qu'il n'y a pas de décaissement qui suit, en même temps, le projet devient parfois caduque. Et parfois, les populations se disent qu'elles sont lésées hein, par rapport à des projets communautaires.
Alors justement, ces performances que le Togo réalise en matière de réforme économique, en matière d'amélioration du climat d'affaires, et que nous salue la Banque mondiale, ça semble contraster avec la réalité du terrain. C'est ce que Eric a posé, à savoir quel est l'impact réel de toutes ces réformes-là, de toutes ces performances dans le quotidien des Togolais. L'actualité, c'est depuis la reine des savanes où le ministre d'État Yark s'est retrouvé ces derniers jours pour évaluer les projets d'extension d'adduction d'eau. Et avec le constat fait par le ministre qu'il y a encore retard, il y a encore mauvaise qualité de travail tel que les entreprises le font. Nous en avons parlé hier et nous avons des retours. Des entrepreneurs qui se plaignent également que l'État est trop lent à leur payer dans les décaissements. C'est-à-dire que l'État vous passe un marché, vous avez un fonds de démarrage qui n'arrive toujours pas à temps et à mi-chemin, vous soumettez une facture que vous pouvez attendre longtemps pour être servi. Et si vous exécutez le marché sur vos fonds propres, vous pouvez mettre 6 mois, 1 an et beaucoup plus pour vous faire payer au trésor. Voilà également certaine lenteur sur laquelle il faut attirer l'attention.
Je voudrais confirmer l'inquiétude des entrepreneurs. Et
ils ont raison.
À chaque fois, nous disons que c'est eux qui créent des problèmes sur le terrain. Mais à certains moments, eux aussi, ils ont leur raison. Vous savez, lorsque vous allez à un appel d'offres, ça veut dire que derrière vous, vous avez une caution.
Une banque
qui vous prête de l'argent. Mais cet argent-là, vous devrez le payer avec des intérêts. Mais lorsque vous ne recevez pas à temps les paiements, donc vous créez un autre trou au niveau de la banque dont les agios s'ajoutent au fur et à mesure. Et donc, ces entreprises-là ont aussi cette difficulté-là dans le décaissement des fonds qui leur devraient être alloués pour faciliter l'avancement de leur chantier. Toutefois, quand le ministre Yark parle de la qualité des travaux, je pense que là, c'est
un autre problème. Voilà, c'est là où moi je voudrais dire.
Il ne faudrait pas que ces entreprises-là, parce que parfois pour aller postuler à des appels d'offres, des gens se regroupent, ils se retrouvent en consortium ou en je ne sais pas quoi, mais en association. Toutefois, ils ont un très bon dossier et ils gagnent le marché. Dans l'exécution, peut-être celui-là même qui a la technicité pour faire ces travaux-là disparaît. Parfois, ça arrive. Et donc là, c'est des amateurs qui sont sur le terrain et ils font n'importe quoi. À partir de ce moment, c'est là où on a dit toujours que les maîtres d'œuvre doivent forcément suivre les travaux qui s'exécutent dans le cadre des projets, surtout communautaires. Dans l'histoire de l'addition d'eau, mais ça, j'avoue que les gens ne font pas le travail comme il faut. Parce qu'il faut un certain niveau de profondeur pour avoir l'eau de bonne qualité. Mais dès que les gens touchent une première nappe, c'est fini. Ils pensent qu'ils ont déjà trouvé la bonne eau et ils commencent par dire...
Je rappelle que le ministre général Yark a interpellé aussi bien les entreprises que les bureaux de contrôle, dans ces projets d'adduction d'eau. Mais je sens que tu veux faire un distinguo pour ne pas créer d'amalgame entre le retard de décaissement de l'État, qu'on peut comprendre, mais à ne pas confondre avec le mauvais travail que certaines entreprises faisaient sur le terrain.
Justement, c'est pour autant, on comprend la plainte des entrepreneurs par rapport au retard du décaissement, mais ça n'explique pas le mauvais ouvrage qu'ils sont en train de faire. Ça, et c'est ce que relève le général Yark dans ses propos et avec énergie, il le dit, parce que effectivement, il a compris, il a constaté que les ouvrages ont été mauvais. Il n'y a pas la qualité qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que vous dites, oui, on doit interpeller les entrepreneurs et même ceux qui contrôlent. Parce que les bureaux de contrôle, parce que c'est eux qui donnent le quitus. que oui, bon, ok, c'est bon. Et le problème, c'est que il y a la corruption sur toute la ligne. Mm-hmm. C'est le mot là qu'on ne veut pas dire. La corruption existe sur, j'allais dire, toute l'échelle. Et donc, ça fait que, oui, tout le monde veut gagner un peu, voilà, comme ça se dit chez nous.
Malheureusement, cela se fait au dépens des projets et au dépens des populations.
Voilà, et c'est ça la situation. Et donc, bon, je crois que c'est
aujourd'hui,
de bonnes observations qui sont faites.
Oui, aujourd'hui, dans ce domaine, les anarchas prospèrent. Tout simplement parce que l'on vient te dire, ah, si tu participes à cet appel d'offres, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui allons étudier les dossiers, donc on va te favoriser, et donc nous, c'est 10%, hein. Et donc, ils deviennent des démarcheurs, et les gens, dès qu'ils finissent, ils vont remettre 10% sur un marché.
Aux démarcheurs,
et surtout, lui parlait de corruption. Mm-hmm. Et donc, quand c'est comme ça, c'est sûr que le projet n'ira jamais à terme.
Non, c'est dire que nous ne sommes pas encore au bout de nos réformes. Il faudra que cela continue pour qu'on assainisse tous ces nids de démarcheurs, d'intermédiaires qui entretiennent la corruption. L'ouvrage. Malheureusement, avec la complicité de certaines personnes vraiment haut placées.
Naturellement, c'est ça qui. Regardez, prenez l'exemple de la route Lomé-Anéon. Vous pouvez comprendre que ça continue de retarder jusqu'à présent.
Mmh, mmh.
Et pourtant, à un moment donné, Madame le Premier ministre a fait irruption sur le terrain et a,
tapé du poing sur la table.
Mais les travaux sont toujours restés. Ce n'est pas encore fini.
Mmh.
Qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Mais on en a parlé longuement pour la route Lomé-Vogan. Malheureusement, nous devons encore en parler pour la route Sokoré-Bassa. Qui est bloquée. Nous devons également en parler pour la route Sokoré-Tchamba, dont les travaux ont été lancés depuis le mois de février.
Et voilà, c'est ce qui fait qu'ils sont obligés à un moment donné de bâcler le travail parce que l'argent ne suffisait pas. Et justement parce qu'il y a des intermédiaires qui prennent donc leur
commission,
et ce qui fait qu'à un moment donné, maintenant, ça veut dire que le bureau de contrôle aussi, ayant participé au truc là, est obligé de valider.
Merci à tout cela. Il faut dire pour conclure que il y a 2 semaines, lorsqu'elle lançait un nouveau projet d'extension d'eau dans les communes de Lomé, je crois que c'est le Pachco, quelque chose comme ça. Madame la Première ministre avait annoncé tolérance zéro pour tout travail mal fait ou en retard.
Je vais demander à Madame
le
Premier ministre qu'après ces déclarations, après ces incursions sur le terrain, de faire un suivi de ces travaux-là. Parce que quand on l'a vu sur la route Lomé-Anéra,
on était tous contents.
Mais attends, la première semaine, mais on a vu que ça a bougé.
Ça a commencé à bouger.
Et puis après,
ça s'est estompé.
Plus rien. Et donc, on aurait pensé qu'après cette première sortie, elle allait suivre les travaux. Si elle y était retournée, nous imaginons que ces travaux-là.
Oui, mais est-ce qu'elle a tout le temps pour aller faire ça?
C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est Yark qui est allé sur le terrain et qui partage avec nous ses constats. Alors, elle est la ministre en charge des travaux publics. Elle est où? Elle fait quoi?
Vous savez, ça. Bon, pourquoi nous accusons souvent le chef de l'État de ne pas faire ces sorties inopinées là? C'est parce que parfois quand on voit le chef, on a plus d'entrain à faire.
Ça veut dire que le ministre n'est pas un chef?
Non, mais attends. Il faut voir ce qui se passe dans le pays. Il faut comprendre que lorsque c'est le patron qui sort, les gens ont plus peur
Et je comprends.
C'est ce que le journal est sorti.
Non, mais je comprends. En fait, nous sommes la même chose. C'est ce que dit Eric, c'est ce que Jakuti disait hier en demandant au chef de l'État de secouer tous ses cocotiers, en commençant par ses ministres, que chaque ministre aille vraiment s'assurer
que
ce qui a été convenu se fait.
Il y a des portefeuilles précis pour chaque ministre.
Mm-hmm.
Et donc, il est temps maintenant qu'on commence à les, à vérifier. Où est-ce qu'ils en sont avec justement
Merci.
Il est midi, passé de 3 minutes. Nos auditeurs commencent à s'impatienter. Nous allons observer la pause pendant que Thomas va faire le clin d'œil de Canal faire nos partenaires. Puis nous rebondissons avec les auditeurs qui peuvent entrer en ligne sur l'un ou l'autre numéro. Nous sommes de retour au studio ici avec à mes côtés Aimé Lebon et Eric Johnson pour recueillir vos commentaires ou vos questions sur l'un ou l'autre sujet dont nous avons débattu. Déjà un premier auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur Sass, bonjour tous les plateaux.
Oui, c'est monsieur.
Bonjour.
C'est monsieur Panaké.
Pardon?
Panaké.
Panaké.
Monsieur Panaké.
Oui.
Ok,
oui.
Nous écoutons.
Oui, bon. Moi, mon cas, mon objectif, c'est que le ministre Yark, et ce qui me retient, je voulais demander sur quelle voie il a pris l'hélico ou bien c'est la voie terrestre qu'il a pris pour pouvoir arriver jusque-là. Et qu'est-ce qu'il aurait remarqué sur la voie numéro 1 dont vous parlez. Donc, c'est ça mon inquiétude.
Ok, nous rappelons que le ministre Yark est allé inspecter les chantiers d'extension des réseaux d'adduction d'eau. Bah, comme il est parti de Lomé pour les savanes, je présume qu'il est parti par la route et à son retour, il va causer un peu avec sa collègue en charge des infrastructures sur l'état de la nationale numéro 1. Vous rappelez? Nous débattons souvent de cette artère principale de notre économie. Merci, M. Panaké. Le deuxième auditeur, Aimé, est-ce que par indiscrétion, tu sais par quel moyen Yark s'est rendu dans les savanes pour inspecter ces chantiers?
Mais je crois que l'auditeur veut s'assurer que, par rapport aux mesures sécuritaires, par rapport à la situation sécuritaire, justement, dans le savane, j'ai l'impression que c'est de ça qu'il devait parler pour voir s'il est allé par voie aérienne ou bien par voie terrestre.
Ok, nous allons approcher le ministre.
Allô, Canal Plus.
Oui, bon, Canal FM.
Canal FM, autant pour moi.
Oui.
C'est Wonderful.
Wonderful.
Depuis Hadji Kota.
Eh bien, nous écoutons.
Salut le plateau.
Nous vous saluons en tout.
Ça, vous savez, j'ai l'impression qu'on fait la propagande en matière de financement de la Banque mondiale, tous ces analystes et autres. Est-ce que vous me recevez?
Non, nous écoutons, allez-y.
Voilà, le fait qu'ils disent on a financé des milliards de dollars, on a financé ce projet, on a accompagné cet État et autres là. Et sur le terrain, nous-mêmes, population, on ne voit rien concrètement par rapport à ce genre de conflit. On a l'impression que c'est une propagande du genre, c'est pas financé, mais ça se dit seulement sur les réseaux, sauf pas.
Non, cher ami Wonderful, il y a quand même des choses qui se font. L'ami Wonderful, par exemple, l'un des projets financés par la Banque mondiale, c'est le projet Waka. Que vous suivez assez régulièrement avec ce que Waka fait pour protéger la côte et d'autres chantiers. Il y a d'autres projets.
Évidemment. Est-ce que c'est ce projet seulement que la Banque mondiale a financé?
Il y en a d'autres. Je vous ai cité ce cas-là. Mais sûrement qu'il y en a d'autres. Peut-être que votre question interpelle le gouvernement de faire une plus large information sur les différents projets que la Banque mondiale finance. Et là, je vous rappelle, il y a 2 ans, nous avions animé même pendant 2 jours le club de la presse depuis le siège de la Banque mondiale et nous avions revisité à l'époque tous les projets que l'institution finance. Peut-être qu'il faut reprendre ça et faire plus grand éclairage sur les projets.
Ça, c'est dans le domaine de l'infrastructure, mais dans la population, du côté social, qu'est-ce qui se fait?
Oui,
mais les Togolais en souffrent toujours.
Je crois que Je crois que c'est ce que nous avions dit ici, hein, que en fait, il reste à ce que ça se ressente sur la vie quotidienne des populations.
Voilà. Et voilà. Que c'est ce que ouais. On ne voit rien quoi concrètement. Donc c'est
peut-être qu'il y a un problème d'explication également.
Je vous en prie, l'ami Wonderful. Merci. En tout cas, le gouvernement même a besoin du retour hein, sur le ressenti des populations pour améliorer, pourquoi pas. Troisième auditeur, bonjour.
Allô?
Oui.
Oui, bonjour, Sas. Bonjour, le plateau.
Bonjour, Didier.
Bonjour, comment tu vas?
Moi, je voulais parler de trois problèmes. Déjà, pour le problème des artistes, là, le gouvernement a fait en sorte que la télévision publique, réellement, ne mette pas certains artistes sur une blacklist, quoi. Parce que vous savez, vous êtes d'accord avec moi que certains artistes, la télévision togolaise, la radio ne les passe pas. C'est une façon aussi, c'est pas une façon aussi de pouvoir l'article. C'est que ce gouvernement fait une chose et son contraire. Et puis, secondaire, je voulais parler pour le sport. Le sport, moi, je pense qu'il n'est pas intéressant que nous créons des grands champions dans chaque ville. Pour que par exemple, les services, les sociétés qui le jouent, ils n'ont qu'à créer leur propre championnat, comment vous le dites là? Le
championnat bon. Corporatif?
Oui, c'est plus intéressant. Nous avons des équipes maintenant, ils sont logés, ils sont puissants. Demain, leurs patrons ne sont plus là, il est décédé là, quoi, puis l'équipe s'éteint. Où est le problème?
Mais Didier, c'est justement l'ambition du projet de oui. professionnalisation oui, moi, pour que les clubs ne se réduisent pas seulement à leur président.
Je supporte ça pour ça, madame, pour ça là. Si As John veut créer son, il n'a qu'à créer une équipe corporative ou bien il n'a qu'à soutenir l'équipe des villes. Moi, je pense que, comme en France, comme en Europe, on a des équipes qui s'identifient aux villes. Et puis, ça fait avancer plutôt que les petits clubs qu'on crée là. Les petits clubs, celui-là, c'est là aujourd'hui, il est un peu dessous, ils vont dans le qualité.
Didier, peut-être oui. trouver une formule pour que les grandes sociétés sponsorisent plutôt.
Oui, mais il faut les obliger. On a des sociétés d'État. On peut maintenant plaquer Togo Télécom
à celui-là. Didier, nous Togo sommes en démocratie, on n'oblige plus.
Oui, mais il y a
je
des
rappelle,
mécanismes pour les. Oui.
Je rappelle, bon, Didier. Je rappelle que cette formule a été utilisée dans les années 97, 98, 99 avec
Colonel
Rock. Avec oui. Rock, où on a attribué des sociétés d'État à des clubs, mais ça n'a pas prospéré.
C'est-à-dire non, mais pourquoi ça n'a pas prospéré? Parce qu'il y a toujours les gens là qui se lèvent et puis ils créent des clubs qui sont en concurrence. Bon, c'est pas okay. la concurrence encore ces grands clubs des villes, donc du coup ils affaiblissent le championnat.
Ok, je crois que donc, les explications de madame le ministre également sont claires.
Pour en finir là, moi,
finissez Didier.
Monsieur là, c'est le marché public est réglementé par les tests. Ce que moi je pense, c'est que le ministre a fait, c'est de la com. Je l'ai dit hier. Parce que il y a l'avancement des travaux, avant le décaissement. C'est pas que vous avez un marché, on vous donne 10 milliards tout de suite. Il y a des structures qui sur le marché. Vous êtes à tel niveau, vous avez tel sou, vous êtes à tel niveau. Et puis enfin, quand un retour de garantie, quand le truc finit, il y a un retour de garantie de 10 ans, des fois de 10 ans. Il y a des banques qui font des retours. Le général n'a qu'à se retourner contre ces plus ceux qui ont récessionné ces outils qui ont été mal faits. Et puis les retours de garantie, les bloqués. Et puis les sociétés là aussi qui ont mal fait ce travail, les mettre sur les blacklists, ne plus les démarcher. C'est ça comme ça.
Moi,
je pense que c'est de la com.
Merci. Merci beaucoup. Merci Didier.
Oui.
Nous remercions pour votre franc-parler. Et Yark, s'il n'écoute pas lui-même, ses services lui rendront sûrement compte.
Lui-même, il sait que moi, je suis un franc-parleur. Hein.
Merci. Un autre auditeur. Eh bien, alors, quand Didier disait tantôt qu'il y a des artistes qui seraient mis sur des blacklists sur certains médias, peut-être qu'il aurait pu nous apporter plus d'éclairage. Mais l'auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Abdoul. Bon, moi, ma question est que Patrick Talon. Ça fait banalement 7 ans qu'il est au pouvoir, mais il a pu construire des stades dans toutes les communes du Bénin.
Oui.
Mais si l'État togolais ou bien le gouvernement togolais n'arrive pas à construire les stades, il peut bailler ce domaine-là, Patrick Talon. Moi, lui, il fait 2 ans au Togo, peut-être il va nous construire des stades.
Ah, non, on va sous-traiter 2 ans à Patrick Talon pour qu'il vienne construire des stades dans nos communes.
Oui, de gouverner un peu le Togo pendant 2 ans, peut-être il va.
Ok, non, 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 bon, aimé.
Oui, juste lui dire que, en fait, le projet de stade, de 22 stades dans les 22 communes du Bénin, c'est un projet qui existait depuis le temps de Yayi Boni. Mais c'est vrai que c'est Patrice Talon qui a mis ça en exécution.
Mm-hmm.
Nous sommes d'accord. Et vivement, nous voulons justement ce genre de choses également au Togo. C'est pour ça que nous avons dit qu'on ne peut pas faire du professionnalisme ou bien pratiquer du football professionnel sur des aires qui ne sont pas réglementaires. Et donc, nous essayons de dire également au gouvernement, oui, puisque jusque-là, tous les stades appartiennent au gouvernement, à part celui de Ouamé,
mm-hmm.
qui appartient à Améi. Hein? Et il y a également, oui, mais c'est le seul stade qui appartient à un privé, puisque pour Tata, non, mais ça n'a jamais vu le jour. Voilà donc la situation. Alors, donc, ça veut dire que les infrastructures sont, disons, construites par l'État, et c'est l'État qui met ces infrastructures à la disposition des communes. Par moment, mais c'est vrai que nous avons une direction des infrastructures logées au ministère des Sports. C'est cette direction-là qui gère tous les stades.
Merci. Mais nous allons prendre le dernier auditeur, puis nous faisons le tour de conclusion. Oui, bonjour, l'ami. Allô? Allô, l'ami en ligne? Ah, il n'a pas le retour, mais il est parti. Merci, il est 12h20. Une ultime tentative pour avoir un dernier auditeur. Allô? Ok, il est là ou bien elle est là. Bonjour.
Ah, je suis le chanceux.
Ah oui.
Bonjour mon patron.
Bonjour, c'est Patrick.
Ah oui, salut mec.
Mm-hmm.
Monsieur Aimé, bonjour.
Oui, bonjour.
Je salue aussi les autres. Hein.
Mm-hmm. Et Eric, ici.
Eric, voilà, mon pote.
Bonjour.
Bon, voilà. Monsieur Aimé.
Oui.
Vous n'avez pas l'habitude de venir à tout moment à l'émission.
Et oui.
je vais profiter vous poser une question franche.
Allez-y.
Parce que je vous connais dans le domaine du sport depuis Tropique FM jusqu'à Sport FM, c'est pas aujourd'hui. Alors, la manière dont vous voyez le football togolais, que ce soit c'est-à-dire le championnat ou l'équipe nationale, c'est vrai, il y a des efforts qui sont faites. Mais ce que nous avons vécu, Jean, vous avez cité l'année 97 au stade de Rock. Bon, prenons ça comme ça, au stade de...
Patrick, allez directement à la question.
Voilà. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un avenir promettant pour le football togolais?
Mm-hmm.
Merci.
Je vous en prie. Aimé, il a dit qu'il allait poser une question franche. Il attend de toi une réponse également qui se veut franche.
Mais ça, c'est une question bateau. Est-ce que le football togolais a un avenir? Oui, ben, c'est une question d'organisation. Le problème du Togo a toujours été ainsi. Et à chaque fois que nous avons donc eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu donc des conflits interpersonnels qui ont fait que ça a été retardé à un moment donné. Quand vous vous rappelez 2005-2006, cette situation de crise est arrivée parce que il y a eu donc des conflits entre les dirigeants. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, vous verrez que, vous savez, je vais être clair sur un fait. Ça, c'est depuis que tout le monde a su qu'il y a de l'argent dans le football, mais tout le monde a investi. Le milieu. Tout le monde a investi le milieu. Et même les hommes d'affaires se sont dit, non, mais écoutez, on va aller faire des affaires. C'est ça qui a fait que à un moment donné, il y a eu des tiraillements. À chaque fois qu'on met en place donc une fédération, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Et il y a donc une remise en cause. Dire qu'il y a... Est-ce qu'il y a un avenir pour le football togolais? Oui, je le dis encore, il y a un avenir. C'est parce que ces crises répétées n'ont pas permis à ce que nous ayons, disons, pensé à une relève de l'effectif. on a cru, je l'ai toujours dit, que on a cru que les Adebayor étaient éternels. On a cru que ils ne finiront jamais de jouer et que donc à un moment donné, on s'est rendu compte aujourd'hui que on n'a plus de joueurs, on n'a plus d'effectifs. C'est ça qui fait que nous avons des problèmes avec l'équipe nationale ou les équipes nationales. C'est une question de temps. Et il faut d'abord reconnaître ça, se remettre au travail, et peu à peu, je crois que nous allons donc résoudre ce problème.
En fait, c'est pas une mauvaise chose que les hommes d'affaires investissent le football. On a vu ce que Silvio Berlusconi a fait à l'AC Milan. On a vu ce que Bernard Tapie a fait à l'Olympique de Marseille. On voit ce que Florentino Pérez fait au Real.
Oui.
Les Juan Laporta un peu partout. Sauf que là-bas, les hommes d'affaires vont prendre des clubs, alors que chez nous ici, les hommes d'affaires veulent aller à la siéger la fédération et créer leurs problèmes. C'est ça notre difficulté. Souhaitons vivement qu'on en tire les enseignements judicieux et qu'on sorte de l'ornière et que le football revienne ce que nous aurions vraiment souhaité. Eric, une minute pour ta conclusion.
Les hommes d'affaires,
ils font des affaires. C'est du business.
Ce sont des businessmen et donc là où ils vont,
ils vont
investir et gagner de l'argent.
Oui. C'est ce que Berlusconi a fait.
Mais
Bernard Tapie a fait.
Chez nous, il faut d'abord se rendre compte que les gens cherchent plutôt
à aller gagner.
Sans investir. C'est là le drame de notre football.
Voilà. Je me rappelle Jean-Michel Aulas, qui a sorti l'Olympique Lyonnais de la deuxième, voire de la troisième division.
Il
a fait porter au firmament du football français. Oui. Maintenant qu'il s'est retiré, nous voyons les problèmes que Lyon connaît. Eric, je reviens à ta minute pour la conclusion.
Je voudrais... le carton en même temps.
Oui, carton. Il est déjà à 12h26.
Un carton vert au ministère de l'économie maritime qui porte l'objectif de faire du port de Lomé un hub logistique maritime de la sous-région. Et là, ils viennent d'acquérir un remorqueur géant de dernière génération et qui a été présenté à tout le monde la dernière fois, qui pourra même tirer des bateaux, des navires.
Merci. Juste rappeler à RM Tengue que si nous faisons du port de Lomé un hub, il faut une bonne route, voire des chemins de fer pour drainer les marchandises du port de Lomé vers le reste du pays, voire les pays voisins de l'Interland.
Moi, j'ai deux cartons verts.
Oui.
Deux.
Un pour moi.
Non. Écoutons d'abord le carton. Oui, Aimé.
Le premier, donc, qui va à Mme Sandra Johnson pour que les efforts au niveau donc du climat des affaires, des réformes qui ont abouti donc à ce que nous connaissons au niveau de la Banque mondiale. Et puis, bien sûr, l'autre carton vert qui va naturellement au général Yark pour le travail qu'il a commencé donc à abattre au niveau donc de son nouveau ministère. Et on espère que, dans ce domaine, on finira par assainir le milieu à en faire ce qu'on veut. Merci.
Merci. Carton vert de félicitations, d'encouragement à ces deux personnalités. Eh bien, il est 12h27, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Demain, ce sera le 1er novembre, nous irons honorer la mémoire de nos saints ou de nos morts, c'est selon. Et puis le jeudi, nous revenons avec un spécial club de la presse qui va se délocaliser depuis l'esplanade du Palais des Congrès, en plein dans le marché international des artisans togolais du Miato. Nous allons vivre le club de la presse. Nous vous y attendons pour co-animer avec nous.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
de gentillesse.